RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous et bienvenue en ce lundi de Pentecôte. Nous sommes là et nous sommes en direct avec vous. Bonjour Olivier Truchot.
Bonjour, nous ne chômons pas, même le lundi de Pentecôte. Bonjour à tous, bonjour les grandes gueules.
Les GG sont là pour discuter, pour débattre et on vous attend bien sûr au 32-16. Vous allez prendre la parole aujourd'hui avec Flora Guebali, l'entrepreneur de la transition écologique. Bonjour.
Bonjour à tous.
Abel Boyer des nôtres, l'éducateur. Bonjour Abel.
Salut les amis.
Et puis nous sommes accompagnés par le professeur de philosophie, Jean-Loup Bonamy.
Bonjour à
On parlera de vivre 1000 ans, on parlera intelligence artificielle tout à l'heure avec Laurent Alexandre. Quand l'IA règne et la mort recule, est-ce que c'est un rêve pour notre société ou est-ce que c'est un cauchemar? Il viendra en parler avec nous à 11h.
1000 ans, c'est surtout long vers la fin quand même, non? Vous ne trouvez pas? C'est le milieu qui est dur, c'est le milieu.
Ah, ça dépend de ta compagne ou ton compagnon. Peut-être que ça t'aura plusieurs vies aussi.
Peut-être que
1000 ans avec le même ou la même.
Peut-être que 1000 ans, ça permettra à Nice de faire un résultat.
Oui,
logiquement. Ou de rester longtemps des deux, malheureusement aussi.
Ah, moi, j'ai déjà du mal 3 heures avec Olivier Truchot, alors imaginez 1000 ans, quoi. Oh là là.
Allez.
Ça y est, c'est parti.
De quoi va-t-on parler donc? De l'intelligence artificielle, de Gérald Darmanin qui veut un moratoire sur l'immigration pendant 3 ans. On parlera du match qui est lancé entre Gabriel Attal et Édouard Philippe, qui sera l'élu du bloc central. D'abord, je propose de parler chaleur, gros coup de chaud, avec malheureusement des compétitions sportives qui ont été maintenues, des gens qui ont fait des malaises et il y a même eu une victime. Il suffit de regarder la carte ou il suffisait d'écouter les prévisions Géraldine de Maurice ce matin sur RMC pour se rendre compte qu'on allait être cette semaine encore dans la droite ligne de ce qu'on a vécu ce week-end, des températures au-dessus des 30 degrés.
J'ai croisé Géraldine, elle me confirme effectivement que le pays est la proie d'un dôme de chaleur. L'air chaud nous vient du Maroc et la France va suffoquer encore toute la semaine et notamment Paris, sa région, l'ouest parisien, là où on a l'ouest même de la France et on a moins l'habitude de ces fortes chaleurs. C'est pas nouveau, à chaque fois on explique le dérèglement climatique avec des canicules plus précoces, des périodes pluvieuses, plus longues, etc. Mais on a l'impression, alors chaque fois on nous dit il va falloir s'adapter, mais en fait non. Parce que on ne change pas nos habitudes. Des courses pédestres, des semi-marathons ont été maintenus ce week-end, notamment à Paris. Il y avait la 11e édition de la course la Pyrénéenne autour de la mairie du 20e arrondissement parisien. Et un coureur de 53 ans a fait un malaise, il est mort. Alors pour l'instant, il n'y a pas le lien avéré entre son malaise et les fortes chaleurs. Mais on voit par exemple qu'à Maison-Alfort, non loin de là, en région parisienne, il y a eu 10 personnes en urgence absolue. À Menton, il y a eu une vague de malaise lors d'une course pédestre. 3 personnes hospitalisées. Certains n'étaient pas assez préparés, ont dit les organisateurs. La course a été annulée. Alors déjà, on pourrait se poser la question de la responsabilité de ceux qui maintiennent ces courses. Peut-être qu'il aurait fallu annuler par exemple la Pyrénéenne. Est-ce que c'était bien raisonnable de continuer à organiser ça? Et puis à chacun de nous, c'est la responsabilité individuelle. Il est temps peut-être de s'adapter.
Alors justement, venez en discuter avec nous au 32-16 qu'il aurait fallu annuler ces courses. Est-ce qu'on est incapable de s'adapter, Flora?
Il faut savoir que le coureur du 20e, son décès n'est pas, la causalité entre son décès et la chaleur n'est pas établie aujourd'hui. Donc on peut pas vraiment affirmer ça. Une fois qu'on a dit ça, vous avez remarqué qu'on a du mal à s'adapter à tout changement de situation. De toute façon, c'est général. Le réchauffement climatique, on alerte depuis 1972. C'est pas depuis hier. Donc, si on savait s'adapter, ça se saurait. Si on savait lutter contre le réchauffement climatique, ça se saurait aussi. Donc, de toute façon, dans les années à venir, c'est pas la dernière personne à mourir du changement climatique. Je vous le dis d'entrée de jeu. Et on parle souvent de l'Inde, du Bangladesh, mais ça va être aussi en France chez nous, que ce soit avec la montée des eaux ou avec les fortes chaleurs. Il y a quelques années, il y a un rapport qui a été fait à Paris pour préparer la ville au pic de chaleur à 50 degrés. c'était pendant une canicule, il y a 72 degrés qui a été enregistré dans la cuisine d'un restaurant. 72 degrés, bon bah le restaurant il avait dû fermer puisque c'était ingérable de faire travailler des cuisiniers à 72 degrés, ils en seraient morts clairement, mais il va y avoir une grosse question sur le droit du travail, que ce soit les personnes dans les cuisines en sous-sol, que ce soit les ouvriers de chantier qui travaillent dehors, est-ce qu'on doit décaler leurs horaires dans le sud de l'Espagne, ils travaillent très tôt le matin et très tard le soir, mais ils travaillent pas en plein cagnard. Donc on va devoir changer les rythmes de travail, et moi ce qui me surprend, c'est quand le monde économique ne prend pas des décisions écologiques alors que c'est eux qui vont payer. Les entreprises du BTP, c'est un gros secteur d'activité en France qui embauche énormément. D'ailleurs, il y a des pénuries de main-d'œuvre dans ce secteur. Bah, ils ont intérêt à lutter contre le réchauffement climatique puisqu'ils ne vont plus pouvoir faire travailler leurs ouvriers.
Ils le font déjà. Hein. Les entreprises s'adaptent.
Oui, bien sûr.
De
bah, c'est vrai qu'elles ont arrêté le béton. C'est vrai qu'elles ont arrêté.
Quand même, hein.
Non, mais sur les horaires, par exemple.
Dose. Oh, oui, ça pas vraiment. Pas en France, pas vraiment, on n'est pas assez vite. Hein.
La problématique, c'est que veut dire s'adapter ? Est-ce qu'on arrête de vivre quand il y a des épisodes de canicule ? Ou est-ce qu'on anticipe avec de la prévention, avec, comment dire, des mesures...
Il y a une course pédestre, pardon. Est-ce que là, prenons un cas concret, là, avant de partir en généralité, il y avait une course pédestre organisée à Paris, dans le 20e. Est-ce qu'il ne fallait pas l'annuler tout simplement ? Dire, tant pis, on se reverra là.
Et donc, à chaque fois qu'il va faire au-dessus de 30 degrés, on va arrêter les courses, on va arrêter les matchs, on va s'arrêter de vivre.
Mais Olivier, toi qui prônes la liberté quasi absolue, c'est assez étonnant de te voir réclamer que la ville de Paris soit responsable pour les gens. Chaque personne est responsable de lui-même.
Il y a toujours une responsabilité de l'organisateur dans tout événement. Oui, mais quand tu organises une rêve partie et qu'il y a des morts, bah, je suis désolé, l'organisateur, il est responsable.
D'accord, mais on le sait que sous la chaleur, on est à risque. Tout le monde le sait.
Ah oui, bien sûr, il y a les deux. Il y a la responsabilité individuelle.
Les deux,
bien sûr. Oui, mais c'est les deux, mais ça s'anticipe en amont. Tu as parlé de l'Espagne, en Afrique, ils font comment
ils n'organisent pas des semi-marathons.
Mais ils sont habitués.
Ils s'arrêtent pas de vivre. Ils sont habitués, mais il faut peut-être qu'on soit. Il y a une meilleure prévention. Et la réalité, c'est que chaque année, on répète la même chose. Donc chaque année, on va dire, bon, ben,
moi, c'est rare quand même que la
mais on est plus proche de l'été que de l'hiver, donc c'est des choses auxquelles il faut s'habituer. On sait que par exemple en plein mois d'août, on peut peut-être, vu le dérèglement climatique, connaître aussi des épisodes pluvieux qui n'avaient pas lieu d'être auparavant. Donc il faut une meilleure prévention et une préparation des esprits en amont quand tout va bien en réalité.
Jean-Loup, j'aimerais maintenant que le changement climatique soit considéré comme une évidence et que des gens pourtant intelligents cessent, par esprit de contradiction, d'être climato-sceptique. Parce que moi, par exemple, à l'échelle de ma vie, j'ai 36 ans, je constate le réchauffement climatique. C'est-à-dire, je vois bien que l'hiver, la neige a quasiment disparu et qu'il neige beaucoup moins, presque plus en fait, beaucoup moins que quand j'étais enfant dans les années 90. Et quand j'étais enfant dans les années 90, où il neigeait nettement plus que maintenant, il neigeait déjà beaucoup moins, me disait-on, que dans les années 60 ou 70. Je vois quand on parle de la guerre en Ukraine, on nous dit que la Russie est devenue le premier producteur mondial de blé. Mais en fait, c'est aussi en partie grâce au réchauffement climatique, parce que il y a des terres où avant le blé ne poussait pas et où maintenant il pousse. On voit également
que personne aujourd'hui remet en cause. Ouais.
On
après,
voit,
c'est sur les causes voilà, où il y a un débat.
Bah, non, je veux dire, c'est un cours de physique de base, cours de physique de cinquième. Quand tu émets du CO2, ça fait monter la température. Je veux dire, c'est une loi physique assez basique quand même. Mais par contre, en effet, ce qu'on peut faire pour lutter contre le réchauffement climatique, donc d'une part, en effet, s'adapter nos infrastructures. Tu vois, par exemple, en Californie, ils peignent énormément de choses en blanc parce que c'est une couleur qui aide justement pour la régulation thermique en cas de chaleur. Et d'autre part, moi, je pense que même quelqu'un, tu vois, si tu veux aussi des noms de gens qui ont une part de responsabilité, alors une petite part, mais je peux te citer Angela Merkel, arrêt du nucléaire en Allemagne. Je peux te citer Emmanuel Macron, fermeture de Fessenheim. Et on peut mesurer combien de CO2 ça a émis en plus en Europe.
Sous la pression des écologistes.
Sous la pression des écologistes.
Dans les deux cas d'ailleurs.
Parce qu'en fait, la lutte contre le réchauffement climatique, elle passe en grande partie par le nucléaire, qui est une énergie propre et qui n'émet même pas de CO2. Donc être contre. D'ailleurs, Greta Thunberg, elle est pour le nucléaire, je tiens à le rappeler. Et donc être sincèrement et intelligemment contre le réchauffement climatique, c'est aussi. Pas seulement, mais là, aussi sur l'adaptation.
Attends, Olivier, tu dis, il n'y a plus personne qui est climato-sceptique aujourd'hui. Plus personne, sauf le président des États-Unis, Donald Trump, la première puissance mondiale, de laquelle l'Europe dépend dès qu'elle veut lever le petit doigt pour faire quelque chose. Oui, mais bon, c'est facile de dire ça. Et puis, par ailleurs, il y a les méthodes. Par exemple, au Rassemblement National, ils se disent sensibles. Jordan Bardella, sur ce même plateau, m'a expliqué qu'il était sensible aux enjeux climatiques. Quand tu regardes ou leur programme ou leurs actions, ils votent systématiquement contre toute mesure qui a pour but de limiter le réchauffement climatique.
Bah,
donc en fait, c'est trop facile de dire.
Les écologistes ont prôné la sortie du nucléaire, qui était une erreur historique.
C'est comme le loup qui dit aux brebis, si Élise et moi et je deviendrai végétarien. Le Rassemblement National, ils font que du climato-scepticisme, que ce soit dans leur vote ou dans leur programme. Et chaque citoyen peut aller vérifier. Donc dire, il n'y a plus personne qui est climato-sceptique, ce problème-là, il est réglé, c'est factuellement faux. Et il faut juste être un peu clair là-dessus.
Sauf qu'on voit bien que les débats, tout le monde s'est trompé, en fait.
On a Marco
dans
qui veut
les
réagir
sur ce sujet-là.
Les qui est du côté de Royan. Et il a participé justement à la course ce week-end à Royan. Bonjour Marco.
Salut les GG.
Vous avez fait un malaise ou vous en êtes bien sorti, dites-moi.
Alors moi, j'ai fait un gros malaise. En fait, j'ai fait mon semi-marathon avec deux de mes filles. Et je l'ai fait, bon, ce qui est pas trop mal, je l'ai fait en 2h03. Et mes filles sont arrivées 35 minutes après nous. Après moi, pardon. Et donc, nous, on attendait, en fait, l'arrivée est magnifique. Hein, le semi et le marathon sont réputés assez difficiles parce qu'il y a beaucoup de pentes, il y a beaucoup de choses comme ça. Et l'arrivée est sur la plage. Et les 200 derniers mètres. J'ai attendu avec ma femme et deux de mes autres filles, j'ai quatre gosses. On a attendu pendant une demi-heure, en plein cagnard. Et puis, au bout d'un quart d'heure après l'arrivée de mes filles, en fait, je me souviens plus de rien. Je me suis réveillé au PMA, j'étais perfusé avec mes collègues.
Vous avez fait quoi, un coup de chaud, une déshydratation, une insolation?
Les deux. Coup de chaud avec grosse déshydratation. Et pourtant, j'avais bu pas mal. Mais la problématique, moi, je pense, enfin, beaucoup de marathons débutent à 6h45 ou 7h, et les semis suivent derrière. Et là, le marathon a commencé à 7h30. Nous, on est parti au semi à 9h30. Je pense qu'il eût été plus raisonnable si on avait avancé d'une demi-heure, trois quarts d'heure, ouais, ça aurait changé beaucoup de choses. On est parti à 26 degrés.
C'est ce qu'on appelle l'adaptation.
Voilà, et on est arrivé à 34 degrés à l'ombre. D'accord. Les deux derniers kilomètres, je l'ai fait, il y avait un panneau.
Et vous-même, vous avez hésité à prendre la course?
Je suis un peu tête brûlée.
Et vous vous entraînez régulièrement?
Oui.
Ça n'a pas empêché le malaise.
Je fais beaucoup de courses et je m'entraîne régulièrement et je vais pas. Un semi, ça se fait pas.
Marco, heureusement, ça s'est bien terminé, mais il y a un côté un peu irresponsable de faire du sport.
Et Marco, à l'hôpital, les médecins, oui, mais les médecins, ils vous ont dit quoi? Que vous étiez vraiment. C'était dangereux si vous y arrivez ou ça va?
Oui, non, ça va. C'est j'ai pris. On m'a donné deux unités de sucré et de salé. Au poste médical avancé, je suis pas allé à l'hôpital moi. Mais c'est vrai que vous voyez, les premiers ravitaillements étaient à 5 km, qui est complètement énorme quand il y a une canicule comme ça, on peut le dire. C'est dingue. Il y avait déjà plein de malaises.
Donc ça vient confirmer qu'en fait, aussi bien collectivement qu'individuellement, on prend pas la mesure des choses. Pardon, mais moi j'ai vu dimanche des gens faire du vélo alors qu'il était 11h, les gens suaient, etc. Des personnes parfois âgées. C'est irresponsable. Alors après, comme on a un service de santé, derrière on est pris en charge. Mais enfin bon, après faut pas s'étonner que les urgences soient remplies. Enfin, à un moment donné, il faut aussi quand même se prendre en main et qu'on soit capable de dire ce jour-là, je fais pas de vélo, tant pis, j'avais prévu ma sortie de vélo.
Je ne referai pas sous ces conditions-là, c'est terminé. Bah ouais. J'en ferai d'autres, évidemment, mais pas.
Mais sur place, les organisateurs, quand même, essayer de prévenir, d'alarmer, de dire attention, est-ce que vous êtes sûr d'être
en
bonne condition physique?
Alors oui, ils ont prévenu, n'allez pas au-delà de vos limites, des choses comme ça, quoi. Il y avait quelques brumisateurs un petit peu sur le parcours. Et heureusement, ce qui était chouette, c'est qu'il y avait des gens avec des jets d'eau et tout ça qui nous arrosaient en plus, quoi. Heureusement, les gens, c'était sympa, quoi.
C'est d'être resté debout ensuite à la chaleur, quoi. C'est là où ça a cogné.
Moi, ce qui m'a flingué, c'est la suite. Pourtant, je me suis hydraté. J'ai bu deux fois 500 avec un soluté d'iso pour réhydrater après la course. Mais dans le sable, je pense que c'est ce qui m'a fini. Après, quand on est reparti gentiment pour aller sur le front de mer et remonter par les arcades, à l'ombre, là, boum, c'est
bien terminé. Bien sûr. Donc, appel à la prudence. Marco, merci d'avoir témoigné avec les GG, avec les grandioles. Ce qui sera intéressant, c'est de voir si effectivement les températures se décalent. Par exemple, des épreuves importantes comme le Tour de France. Tu vois, est-ce qu'à un moment, les organisateurs vont se dire, même si le Tour de France, par excellence, si tu sais, a toujours été au mois de juillet, il y a eu des gros coups de cagnard sur le Tour de France, avec des coureurs qui ont eu des fringales. Est-ce que ce sera raisonnable à un moment de maintenir le Tour de France ou est-ce qu'il faudra l'avancer par exemple
Coluche, tu sais, il l'avait envisagé. Si on supprime le dopage, il faudra partir au mois de décembre pour arriver le 14 juillet.
Voilà. Parce que là, avec le réchauffement climatique, il va falloir doper un peu le pot belge pour monter encore les pertes.
Non, mais tu regardes d'ailleurs pour les matchs qui vont avoir lieu au Mexique là cet été pour la Coupe du Monde. Ouais. Ils ont prévu bon nombre de pauses fraîcheurs pour les joueurs.
Oui, mais tu sais pourquoi ? Parce qu'on fait aussi jouer les joueurs trop tôt pour être sur le fuseau horaire européen.
Bien sûr.
Donc ils vont faire des matchs à midi, à 15h, ce qui est effectivement pas raisonnable en fait.
Mais si les températures montent, ou alors on dira il faut construire des stades indoor avec
climatisés comme au Qatar.
Mais est-ce qu'ils contribuent encore au réchauffement climatique ? Parce que la climatisation, elle résout très temporairement le problème à l'échelle individuelle, mais elle l'aggrave.
Alors, cette semaine, il y a Roland Garros qui a démarré. Ouais. La semaine, il y a fait très chaud à Paris.
Et ça jouait en plein après-midi.
Ça joue en plein après-midi.
Donc, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un réchauffement climatique, mais les institutions continuent de fonctionner comme des climato-sceptiques, en fait. Donc, il y a cette dichotomie qui fait que nous, au milieu, on se retrouve.
Oui, parce qu'il y a les mêmes qui sont là à faire des grandes leçons, à dire oui,
ils ne veulent pas changer leur manière.
Ils ne changent pas la règle.
Voilà ce qu'on pouvait dire.
D'ailleurs, ça fausse quand même, la compétition, parce que entre ceux qui vont jouer le soir, grâce au tirage au sort, ils vont jouer en nocturne. Parce qu'à Roland-Garros, on peut jouer le soir. Bah, c'est sûr que ça a des avantages.
Et un autre point, c'est que ça favorise la remontée des espèces invasives, végétales et animales. Tu vois déjà, la carte des espèces change en France. Des espèces qui étaient au sud remontent vers le nord.
J'ai vu une girafe dans Paris.
Et t'as des espèces invasives qui vont proliférer. Ça va poser de vrais problèmes de santé publique et d'écologie.
Surtout en plus avec la Méditerranée qui ne cesse de se réchauffer. Mm-hmm. Tu as des espèces qui vont disparaître. Et ça va être un vrai problème. Est-ce qu'on est incapable de s'adapter, c'est la question qu'on vous a posée sur les réseaux sociaux. Incapable de s'adapter, vous dites oui, malheureusement oui, à plus de 63%. Dans un instant, il y a une campagne qui est lancée, guerre au coup de chaud pour certains, parce qu'il va falloir tenir un an. C'est l'élection présidentielle.
Ouh là là.
On va s'y intéresser. Gabriel Attal contre Édouard Philippe, le match est lancé. Qui est le favori ? Qui sera l'élu du bloc central ? C'est au 32-16 que vous venez en parler avec les grandes gueules, il est 9h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC et RMC Story, les grandes gueules. Avons un service à domicile. Olivier Truchot, alors les personnes âgées d'abord, s'il te plaît.
Oui, alors, merci. Ça, les personnes âgées, c'est un verre d'eau par émission.
Et t'allais nous chercher des petits verres.
Allez-y. Priorité au seigneur.
La prochaine fois, c'est pour toi, Flora.
Oui.
On n'a plus de bouteilles d'eau, pour être très franc avec vous. Donc, on est pour les 3 heures. Là, on a des petits verres d'eau avec nous.
Flora Guébali. 10 km pour aller chercher l'eau.
Jean-Loup Bonamy et Abel Bouilly.
Voilà
les trois grandes gueules, c'est le trio des I.
Charles Consigny, on sera au complet.
Je vous propose de parler politique et de 2026. Oui, des déclarations en 2026 dans la perspective de 2027. Là, la déclaration du week-end, c'est celle de Gabriel Attal. Gabriel Attal qui s'est déclaré dans l'Aveyron, dans un petit village de l'Aveyron. Et la question qu'on lui a posée, c'est est-ce que c'est le successeur d'Emmanuel Macron ? Est-ce que c'est un mini Macron ?
Certains vont vous coller l'image d'un mini Macron. En quoi ce serait faux ?
On est évidemment des personnes différentes. D'abord, moi je vais pas faire croire aux gens que j'ai rien à voir avec ce qui s'est passé ces dernières années. J'ai été au gouvernement pendant 6 ans, j'ai été Premier ministre. Je suis comptable de ce que j'ai fait ou de ce que j'ai pas fait, de ce que j'ai bien fait ou de ce que j'ai mal fait. Deuxième chose, après on est évidemment des personnes différentes. Et c'est d'ailleurs normal. Je veux dire, je pense que sur le fond, on a des différences. Probablement que sur la personnalité aussi, mais ça je suis pas le mieux placé pour juger.
Gabriel Attal, candidat en 2027, candidat du Bloc Central. Et puis son grand rival, ce sera Édouard Philippe, l'actuel maire du Havre. Bon, pas encore déclaré complètement officiellement, Édouard Philippe. Mais qui va l'emporter ? Qui sera le mieux placé ?
Alors si, Édouard Philippe, il est candidat. Gabriel Attal est candidat. Donc on a le centre droit incarné par Édouard Philippe, le centre gauche incarné par Gabriel Attal, le macronisme en fait, les deux visages du macronisme, du bloc central. Que je regardais Gabriel Attal, je me dis c'est une vague de fraîcheur. Prisca Thévenot, Franck Riester, Paul Midi, des gens qu'on n'a pas vu du tout pendant 10 ans quasiment. Mais ça va tout changer.
De film d'horreur.
Ça va être quand même un peu ça le problème quand même à mon avis pour Gabriel Attal et même pour Édouard Philippe. entourés de leurs équipes, c'est que tous ces gens-là, on les voit depuis 10 ans. Ils sont ministres, députés, ils ont été au pouvoir, mmh. ils ont eu les manettes. Ça va être difficile de nous expliquer que finalement, ils vont tout régler grâce à leur talent. Mais ça va être tout l'enjeu de Gabriel Attal notamment. Avec Gabriel Attal qui se veut un peu plus progressiste, par exemple, pour la GPA, Édouard Philippe lui dit, moi je suis de droite. Bon, est-ce que vraiment il y a une grande différence entre les deux? En tout cas, selon vous, qui va remporter ce match dans le match, donc Philippe Attal?
Qui est bien parti? Alors, Abel.
Alors pour moi, quand je vois la candidature du Gabriel Attal, c'est même s'il est très brillant, c'est un peu Jean-Claude Duss en fait. C'est je suis jeune, j'ai été au gouvernement, je n'ai rien à perdre sur un malentendu, ça peut passer. Et puis de l'autre côté, Édouard Philippe, bah lui, le risque c'est qu'il soit en phase de jupéisation, c'est-à-dire très populaire 2 ans avant, et que sa popularité finisse par s'éroder. Et les deux ont en commun effectivement d'être des produits du macronisme. Ils ont beau crier le contraire, ils sont artisans d'une politique qui est très impopulaire, d'un président qui est rejeté par la majorité des Français, et ça peut leur porter préjudice à tous les deux. Néanmoins, si on reste réaliste, aujourd'hui, Édouard Philippe a une longueur d'avance. Mais là, on est dans un jeu de dupes, c'est qu'on sait très bien que Gabriel Attal rejoindra les rangs d'Édouard Philippe au cas où. Donc en fait, les dés sont pipés en avance.
Jean-Loup?
Question historique, est-ce que tu sais ce qui s'est passé en 410 après Jésus-Christ? Eh ben c'est la prise de Rome par les Visigoths, du chef barbare, hein, invasion barbare germanique, du chef Visigoth Alaric. Et Alaric nomme un empereur romain fantoche, un usurpateur qui est sa créature, sa marionnette, et qui s'appelle Attal. Pas moi qui l'invente, c'est dans les livres d'histoire. Attal l'usurpateur. Et en fait, Attal... le Romain hein, est resté dans l'histoire sous le surnom d'Attal, le joueur de flûte. Vous pouvez vérifier, hein, ce n'est pas moi qui l'invente. Attal, le joueur de flûte, parce que apparemment, non, c'était un fantoche et sa passion, c'était de jouer de la flûte. Alors, je ne sais pas s'il y a une sorte de déterminisme qui fait que tous les Attal doivent être des joueurs de pipeau, mais je vois une sorte de continuité historique entre Attal, le joueur de flûte, et le pipeau que nous venons d'entendre depuis l'Aveyron sur « nous sommes deux personnes différentes ». Voilà, c'est-à-dire que Gabriel Attal a un problème qu'il doit porter, et ce problème, comme tu l'as bien dit, Olivier, c'est le macronisme. D'ailleurs, il essaye de casser cette image à la fois très macroniste et très parisienne en allant dans l'Aveyron. Mais le problème, c'est que là, les gens ne sont pas dupes.
Alors et que c'est un élu de la région parisienne.
Voilà, et je pense que les gens ne sont pas dupes. C'est-à-dire, quand bien même il y aura une victoire d'un candidat du Bloc central, ce qui me paraît tout à fait possible, Édouard Philippe ou Gabriel Attal, ou encore un autre, ça sera de toute façon un vote par défaut, parce que les gens ne voudront pas du RN. Ils voudront ni du ou RN et de Bardella, ou de Marine Le Pen, ni de Mélenchon, mais voilà.
Donc ça ne sera pas un vote d'enthousiasme.
Voilà, contrairement à ce qu'on a connu sous la 5e République jusque dans les années 2000-2010, ça ne sera de toute façon pas un vote d'adhésion, ni un vote d'enthousiasme. Ce sera un vote de rejet par défaut, bon, et tout de suite avec une popularité qui s'effondrera au bout de quelques mois.
Flora, on revoit au 32-16.
Je suis pas d'accord avec ceux qui appellent Gabriel Attal mini Macron. Je pense que c'est le sous-estimé. Déjà, Gabriel Attal, il aura 38 ans en 2027 et Emmanuel Macron, il avait 39 ans en 2017. Donc en fait, ils ont le même âge au moment de leur potentielle prise de pouvoir. Et ensuite, je pense qu'on surestime Édouard Philippe et on sous-estime Gabriel Attal. Or, Gabriel Attal a beaucoup d'énergie et on voit qu'en campagne présidentielle, c'est quand même ce qui compte le plus. Parfois, c'est celui qui le veut le plus qui y arrive le mieux. Gabriel Attal a l'air, pour le moment, assez déterminé et assez fin stratège. Notamment, je crois que son slogan, c'est le pouvoir d'agir ou retrouver le pouvoir d'agir.
Après, c'est l'outsider, donc il est obligé d'en faire plus.
Et
le favori, c'est Édouard Philippe.
Oui, mais le favori n'a jamais gagné une présidentielle non plus. Donc, c'est un peu trop tôt pour se positionner. Moi, je regarde avec beaucoup d'intérêt cette campagne naissante parce que je pense qu'elle a de l'avenir.
On a Olivier qui va en parler avec nous. Il est du côté de Lyon. Ensuite, on ira dans les
Beaux-Jolais. Très beau département. Julien. Très beau
bonjour,
prénom.
Olivier.
Très beau. Et en plus, un prénom magnifique.
Qu'est-ce que vous en dites, Olivier, alors? Bonjour.
Je vais commencer par... moi, j'ai toujours aimé les blagues de Toto. Ça m'a toujours fait rire. Mais franchement, il y a un moment, faut arrêter. Parce que... Alors, j'entends tout ce qui vient d'être dit. Alors, c'est pas un mini-Macron, c'est un mini-Macron. Mais globalement, les gens... Si, les gens, ils le calquent sur Monsieur Monsieur Macron. Et Monsieur Philippe, c'est exactement pareil. C'est le centre mou. En plus, faut pas oublier qu'ils ont été premier ministre les deux. Alors, on entend quasiment, je veux dire, assez souvent, il faut retourner la table, mais c'est pas avec ces gens-là qu'on va retourner la table. Alors, je veux bien qu'on aille. Bah,
c'est les centristes.
Extrêmes.
Donc, un centriste ne retourne pas la table, par définition.
Ah, non. Puis, il suffit pas d'aller se déclarer, je veux dire, sur une botte de paille. Il n'y a pas ce coup-ci. Mais en Aveyron, pour dire, se déclarer, avoir la France. Alors, et puis, comme par hasard, ils aiment tous la France. Là. Pardon, ils aiment tous les électeurs. Enfin, ils devraient dire, on aime plutôt vos votes et vos bulletins. C'est plutôt ça qu'ils devraient dire. Déjà. Mais,
vous n'êtes pas sensible quand même à l'idée qu'a Gabriel Attal, après d'autres, hein, de casser son image de Parisien et d'aller notamment dans l'Aveyron se déclarer.
Oui, ça sonne tellement faux.
D'autres l'ont fait avant lui, Chirac d'ailleurs.
Vous savez, on a l'impression quand même justement. C'est, alors, j'ai un peu l'impression justement qu'on prend justement les Français de province un peu pour des quelque part des bétiaux. On va en province pour essayer de casser son image, mais on sait réfléchir. Encore une fois, on n'est pas des abrutis finis. Je veux dire en province,
vous comme
dirait
avoir.
Quelqu'un dans la France profonde. Moi, il y a un moment où je peux plus. Ces gens-là, j'en peux plus parce qu'en plus, comme ça a été dit, il va avoir 38 ans. Mais je veux dire, c'est un jeune qui a déjà une politique de vieux, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
C'est un jeune vieux, en fait.
C'est pas transcendant, tous ces gens-là. En fait, on va malheureusement, on va voter par défaut.
On a l'impression quand même que c'est la continuité. C'est-à-dire, même si chacun, aussi bien Édouard Philippe qu'Gabriel Attal, essaie de marquer une rupture avec Emmanuel Macron, et Édouard Philippe, il dit, finalement, le modèle social,
ce sont des conservateurs au sens propre du terme.
Gabriel Attal n'essaie pas de marquer une rupture. On vient de passer un extrait dans lequel il dit, je fais pas semblant de pas en être. Ça fait 10 ans que je suis au pouvoir. Il vient de le dire.
Oui, mais si j'ai bien compris, Olivier,
pour incarner une
différence. Si j'ai bien compris, c'est pas sur le bloc central que vous compterez pour 2027.
C'est des idées qui vont pas parce qu'on a beau, je veux dire en fait, il faut arrêter, pour la personne providence. Moi, je la connais. Il faut absolument ce coup-ci analyser correctement, éventuellement les 10 points des programmes de chaque parti principaux candidats et puis voter pour ça parce qu'on est, franchement, on est dans les GG, on est dans une mer de noir. Moi, je suis artisan, mais je peux vous garantir que c'est juste catastrophique quoi. Là, l'histoire du carburant, en fait, c'est la fameuse expression, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, en fait. C'est exactement ça, en fait.
C'est une catastrophe. On a bien compris que ce que vous vouliez, c'était un programme de rupture, passer à autre chose. On va voir ce qu'en dit Julien, qui est avec nous, qui est dans l'immobilier, dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour, Julien.
Salut les GG, bonjour à tous. Bonjour.
Alors, ce sera ou l'un ou l'autre, pour vous, Gabriel Attal, ou Édouard Philippe.
Ni l'un ni l'autre. Soyons clairs, pour moi, ils ne seront pas au deuxième tour.
D'accord.
Ils font rêver personne. La seule chance de Gabriel Attal, ça va être que Édouard Philippe s'empêtre dans son histoire judiciaire qui est naissante.
Qui n'a pas l'air non plus d'être le scandale du siècle. Enfin,
seule chance de Gabriel Attal qui n'a aucun charisme, est trop parisien, trop macroniste. Je ne crois pas que ça soit un avantage qu'il soit homosexuel dans la France d'aujourd'hui. Je n'y crois pas.
Ah oui, pour quelle raison ?
Je pense que la France est trop conservatrice. Moi, perso, à titre personnel, ça me gêne pas du tout. Mais je pense.
Vous pensez que ça sera un frein ?
Oui, j'y crois. Enfin, je le crois sincèrement. Hein. Après, je peux peut-être me tromper, mais je vois plutôt des gens qui seraient capables de voter contre que de prendre uniquement ce prétexte pour voter pour.
Mais oui, mais voyez, Julien, je sais pas ce que pensait Grande Gueule, Julien, mais moi, je pense qu'effectivement, dans ce pays, il y a une volonté de dégager ceux qui sont en place. Et Attal et Édouard Philippe, quoi qu'ils disent, ils représentent quand même le pouvoir macroniste. Mais en même temps, l'alternative, c'est quoi ? C'est soit la gauche radicale avec Mélenchon, soit la droite de la droite avec Bardella ou Le Pen. Et donc, en fait, il y a un piège qui est en train de se tendre. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont dire, oui, mais faute de mieux, je ne vais quand même pas voter Mélenchon-Bardella. Donc, je le vote par défaut sur le candidat du bloc central. Donc, un vote par défaut, ça veut dire que derrière, pas de majorité à l'Assemblée nationale. Donc, c'est reparti dans l'inertie, la capacité
d'autant
de
plus que le président ou la présidente devra dissoudre une fois élu.
Oui.
D'accord. Et la problématique,
quand il y a un délai,
on la voit. Oui, et on la voit dans la communication, que ce soit d'Attal ou de Philippe, ils ont du mal à se démarquer de Macron parce qu'il ne faut pas cracher sur la main qui vous a nourri, voilà, tout en affirmant une certaine originalité. Or aujourd'hui, comme ça a été dit, les Français veulent renverser la table. Et les deux seuls partis qui incarnent ça, ce sont LFI et le Rassemblement National.
Mais beaucoup de Français n'ont pas envie d'aller vers là, donc ils sont coincés.
C'est-à-dire... Beaucoup de Français n'ont pas envie, mais beaucoup de Français ont envie aussi. C'est-à-dire que ça va être kiff-kiff en réalité. Donc pour eux, le défi, c'est comment affirmer une sorte de radicalité sans tomber dans l'outrance. Et ils n'y arrivent pas du tout.
Non, mais ce que je voulais dire, c'est peut-être la place pour un candidat ou une candidate qui n'incarne plus, qui n'a pas à solder le bilan d'Emmanuel Macron, mais qui en même temps n'est pas dans la radicalité d'un Mélenchon ou d'une Le Pen ou d'une Bardella. Je pense qu'il y a une place encore. Moi, c'est pour ça que je le casse.
Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, mais propose-nous un seul nom théorique. Parce que moi, je vois personne qui...
À gauche, ça peut être un Glucksmann, par exemple.
Glucksmann ne va pas être président de la République.
Oui, Julien,
allez-y. Sérieux, deux secondes. Quoi.
J'ai reçu beaucoup de coups de téléphone depuis hier pour dire je soutiens Gabriel Attal.
Non, très peu.
Oui, voilà. Je connais personne dans mon entourage qui fait...
Est-ce que c'était un sujet de conversation ce week-end? Autour de la table.
Pas du tout.
Est-ce qu'on a reçu beaucoup d'appels qui nous disent je soutiens Raphaël Glucksmann, c'est le troisième homme.
Alors, qu'il organise un grand meeting.
C'est le deuxième tour, hein.
Julien, il organise, il organise son grand meeting de lancement de campagne le samedi prochain, porte de Versailles, pas loin d'ici. Alors c'est le jour de la finale de Ligue des Champions. Ouais. Je suis pas sûr qu'il ait choisi le bon jour, mais bon.
Merci Julien d'avoir été avec nous. À bientôt pour de nouvelles discussions, Julien. Salut Julien.
Merci, bonne journée.
On a Julia qui est chef de projet du côté des Hauts-de-Seine, à quelques encablures d'ici, à Issy-les-Moulineaux. Bonjour Julia.
Bonjour.
Bon Julia, et vous, qu'est-ce que vous en pensez, Gabriel Attal ou Édouard Philippe?
Est-ce que Attal vous fait fantasmer?
Eh ben, enfin une personne, voilà, je suis peut-être une des seules qui aime bien Gabriel Attal.
Voilà. Et pour quelle raison alors?
Pour quelle raison?
Vous avez été payé?
Alors, non, pas du tout.
Quel mépris, ce genre de bon ami.
Oui, quel mépris, oui, mais c'est tout à fait son genre.
Mais je trouve ça dommage de faire gratuitement ce pourquoi on aurait pu et dû être payé.
Est-ce qu'on peut écouter, Julia?
Oui, allez-y. Merci beaucoup. Là, en ce moment, on nous propose quoi? Soit Mélenchon. Et au milieu, on nous dit, prenez le vieux qui reste de Macron, Édouard Philippe. Mais pourquoi? Pourquoi on aurait le choix qu'entre trois personnes?
Vous avez raison. Pourquoi Gabriel Attal, vous parce qu'il pourrait d'autres candidats.
Parce que moi, je trouve que quand il était porte-parole, moi, je l'ai connu comme ça, je le trouvais bien dans ses dossiers, incisif. Effectivement, il représentait Macron, mais c'est normal. Je pense que tous ceux qu'on connaît en politique viennent de quelque part. Oui, c'est un bébé Macron, mais il faut bien être un bébé de quelqu'un d'autre. Quand vous voyez les anciens, ils viennent tous soit de Chirac, soit de
Mitterrand. Non, mais c'est vrai, vous avez raison.
Donc, pourquoi taper tout de suite sur lui? Laissons-lui le temps. Quand on voit Bardella...
Vous trouvez qu'effectivement, il connaît bien ses dossiers, il est sérieux?
Oui, déjà, il est sérieux. Moi qui habite ici des Moulineaux et qui l'ai connu par le biais d'à côté de la ville de Vanves, quand on lui parle, il est très ouvert, il est très à l'écoute. Et même s'il sort des écoles, comme vous dites à chaque fois, parce que c'est vrai que c'est un... Quand on sort de grandes écoles, c'est un gros mot pour beaucoup de personnes. Mais quand on voit Bardella, il ne sort pas non plus de...
Oui, vous savez, je pense que la question, c'est de savoir le candidat ou celui qui l'emportera ensuite, est-ce qu'il aura une majorité et est-ce qu'il pourra appliquer son programme? Quel est le programme? On parlera tout à l'heure, vous voyez, du défi de l'intelligence artificielle, comment la France s'est faite larguer sur les nouvelles technologies sur les 25-30 dernières années.
Est-ce que
Gabriel Attal, dans son programme, il aura de quoi montrer qu'il réformera le pays, qu'il relèvera les défis et qu'il repositionnera la France au sein de l'Europe et en tant que nation? Aujourd'hui, l'attente des Français, elle est là, hein.
Mais il faut laisser le temps, on commence. On commence à parler. Oui, il commence. Laissez-lui le temps.
Mais en plus, ce qu'on remarque, c'est que et Attal et Philippe, quand vous voyez leur communication, lorsqu'ils ont annoncé leurs priorités, ils disent les mêmes mots. Les deux ont parlé de l'école en premier. De l'école. C'est-à-dire, c'est presque des copier-coller, en fait. Même, en tout cas, dans la première
difficulté, c'est qu'il va falloir les distinguer. Alors, il y a deux personnalités différentes, mais effectivement, sur le programme, c'est le centre. Alors, il y a le centre-gauche, centre-droite, et encore, je dis centre-gauche, Gabriel Attal s'est fait quand même remarquer avec des positions assez dures. C'est lui qui a interdit la baïa à l'école. Donc c'est comme ça qu'il est devenu populaire. Non, mais il est devenu populaire lorsqu'il a assumé une ligne assez dure au ministère de l'Éducation nationale. C'est ça qui l'a fait émerger. Donc, comment ils vont-ils pouvoir se distinguer les deux?
Moi, je pense que Gabriel Attal.
Oui, c'est ça. Pourquoi plus Attal que Philippe pour vous, Julia?
Au-delà des personnalités.
Parce que Philippe, c'est déjà l'ancienne politique. C'est
l'ancien monde.
Oui, c'est l'ancien monde. Ça y est, il est parti. En plus, il est parti au moment où la France était quand même. Il a tout abandonné et. En tout cas, pour moi, j'ai trouvé quand il est parti de son poste de Premier ministre, je trouve qu'il nous a pas abandonné, mais presque, quoi. Donc, comment faire confiance
Macron
à une personne
plus, hein.
Oui, effectivement, mais bon, il aurait pu le montrer. Et dire, voilà. Autant avoir une alternative.
D'accord,
et n'oubliez pas les gens de comme moi qui sont du centre droit, on n'a plus personne. On n'a que les extrêmes.
Et... Julia, on verra effectivement. Vous avez votre option Gabriel Attal. Vous dites c'est le duel Attal Philippe qui est lancé. C'est la pré-campagne. Hein. Ensuite, il y aura les 500 signatures et puis on verra. Celui qui sera le mieux placé dans les sondages.
Et attention, parce que dans le bloc central, il y a des gens qui sont en embuscade. Sébastien Lecornu, Gérald Darmanin, on va en parler dans un instant.
Alors, présidentiel, le duel Attal-Philippe lancé, qui est le mieux placé, selon vous, Attal ou Philippe? Eh ben, c'est quand même là, selon ceux qui ont voté sur les réseaux sociaux, Édouard Philippe a quasiment à 60%. Voilà, Édouard Philippe le mieux placé à 60%. Dans un instant, on s'en fout pas. Restez avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, les 10h-20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4. Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, Jean-Loup Bonamy, Abel Boyi et Flora Guebali. Et surtout le jeu Coupe du Monde. N'oubliez pas que sur RMC, vous jouez à la liste des 26 et vous allez peut-être pouvoir remporter 10 000 euros. Vous choisissez votre joueur préféré dans la liste des 26 présentée par Didier Deschamps et vous gagnez 10 000 euros ou le pack Coupe du Monde. Et le pack Coupe du Monde, c'est le vidéoprojecteur, le maillot des Bleus, le ballon officiel, la boîte Lego du trophée. Vous avez juste à envoyer liste par SMS au 732-16. Liste par SMS au 732-16. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire. Tirage au sort tout à l'heure chez Estelle Denis et chez Vincent Moscato. Donc allez-y, inscrivez-vous. Liste par SMS au 732-16. Vous avez 5 minutes à vous de jouer, à vous de gagner. Il est 10h moins le quart.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas.
Avec Louis Gerbier, aujourd'hui on souhaite de bonnes vacances à Anaïs Inès
Sainz. Encore ?
Bonjour Louis.
Comme toutes les deux semaines, bonjour à tous. Ça va les GG ?
Ça va bien.
Allez, on commence avec le déontologue de l'Assemblée saisi après une photo de Charles Alonque et sa collaboratrice parlementaire. On s'en fout, on s'en fout pas Jean-Loup ?
On ne s'en fout pas.
Abel ?
On s'en fout pas.
Et Flora ?
On m'en fout.
Yaël Braun-Pivet a donc saisi le déontologue de l'Assemblée à propos d'une photo publiée par Paris Match où on voit le député Charles Alonque et sa collaboratrice d'abord présentée comme sa compagne puis ensuite comme une amie. Or, on se rappelle que depuis 2017, la loi pour la confiance dans la vie politique interdit à un député ou un sénateur d'employer en tant que collaborateur parlementaire son conjoint, son partenaire lié par un PACS ou son concubin. Alors Flora, tu t'en fous, donc Jean-Loup, pourquoi tu t'en fous pas ?
Eh ben, je vois que visiblement on fait tout pour abattre Charles Alonque, qui a froissé beaucoup d'intérêts, dont la parole a dérangé, et donc on fait tout pour l'abattre. Alors première remarque, justement quand Monsieur Attal, dont on parlait tout à l'heure, Premier ministre, a nommé ministre des Affaires étrangères son compagnon, ça n'avait pas choqué. D'ailleurs, je ne critique pas, mais du coup on peut pas faire un deux poids deux mesures. Deuxièmement, c'est pas parce que tu es pris en photo par une photo volée, violation de la vie privée, en train de marcher dans la rue avec une personne que tu es forcément en couple avec cette personne. Si là, on sort prendre un verre avec Alain Marchal et qu'on nous prend tous les deux en photo, je ne sais pas si on pourra dire qu'Alain Marchal et moi, nous sommes en couple. Bon. Et enfin, quand bien même il serait, comme on le dit aujourd'hui, en couple, ça veut pas dire, je vois que ça te fait rire, non. Quand bien même l'image te fait rire, eh bien, c'est pas pour autant que tu es un concubin. C'est-à-dire, un concubin, il n'y a pas de lien d'argent entre eux, ils sont pas mariés, ils sont pas paxés, ils vivent pas sous le même toit, ils ont pas un appartement en commun, donc ça ne concerne absolument pas, quand bien même ils seraient éventuellement en couple, ce qui n'est même pas sûr, mais imaginons qu'ils soient en couple, mais en fait, ils sont quand même pas concubins, il n'y a pas d'intérêt d'argent entre eux, ils vivent pas sous le même toit, donc vraiment, je vois que, mais là, bien sûr, on se précipite pour abattre Charles Charles Lalonde, dont la parole a froissé bien des intérêts.
Abel Boyi.
Bon, beaucoup de choses ont été dites. Charles Lalonde, bien que la mission sur la régulation de France TV ait été importante, il a été le plus mauvais commercial du monde dessus, parce qu'il s'est agité comme un espèce de petit juge qui voulait prendre la lumière, et ça, il a desservi à sa propre cause. Et je pense qu'effectivement, dans cette hypocrisie, parce que si on lève la boîte de Pandore, si on voit qui est en couple avec qui couche avec qui flirte avec qui à l'Assemblée nationale, je pense qu'il y aurait beaucoup de déontologues qui seraient saisis.
Oui, mais les règles... Il n'a pas les règles. Non, ils ne sont pas mariés, ils vivent pas ensemble.
Dans ce cas-là, il faut saisir le déontologue à chaque fois.
Il serait saisi quasiment
H24. Et on reproche à Madame Braun-Pivet de ne pas l'avoir fait pour Ercilia Soudet, la députée insoumise, qui a été condamnée au prud'homme en 2026, donc cette année, pour avoir embauché son compagnon comme collaborateur parlementaire. Donc, on a l'impression que Yael Braun-Pivet est dans un règlement de compte personnel contre le député.
Et dans un poids de mesure.
Charles Lalonde était dans un règlement de compte personnel dans sa commission, et Yael Braun-Pivet est dans un règlement de compte, justement. C'est-à-dire que c'est toujours cette bassesse de la classe politique où on fait croire que l'on bosse pour les Français, alors qu'en fait, on se titille sur des intérêts personnels.
On n'a pas le droit d'embaucher son ou sa concubine, mais si on se met à sortir avec son ou sa collaborateur, collaboratrice, comment ça se passe? Et est-ce que ce n'est pas une discrimination pour cette personne qui avait un job de collaborateur parlementaire, qui d'un coup tombe amoureux de son député et qui d'un coup perd son boulot?
Qui donc s'appelle Scheherazade.
Faudrait faire une
très
loi.
Joli prénom.
Les mille et une nuits.
Faudrait faire une loi pour interdire de tomber amoureux à l'Assemblée nationale. Allons au bout de l'absurdité.
Ce qui m'amuse, c'est comme Allon qui est devenu la cible notamment d'une certaine presse de gauche, et qu'on reprend une photo volée, c'est de la vie privée. Hein. J'ai vu que Mediapart ce matin en faisait des voilà. Donc c'est assez amusant, c'est que la vie privée, il faut pas y toucher, sauf si on peut faire tomber un adversaire.
Sauf si c'est Charles Allon.
Voilà,
là on a le droit.
Allez, on enchaîne avec Nathalie Arthaud qui officialise sa 4e candidature à la présidentielle. Abel, tu t'en fous?
Oui, complètement.
Jean-Loup?
Je m'en fous pas du tout.
Et Flora?
Je m'en fous pas.
Alors, la candidate lutte ouvrière depuis 2012, où elle succède à Arlette Laguillé à l'époque. En 2012, elle récolte 0,56% des voix. Elle monte à 0,64% en 2017 et revient à 0,56% en 2022.
Et on va la recevoir.
2027 en route.
Ah oui, avec plaisir.
Vers les 1%, Abel?
Moi, j'ai dit que je m'en foutais.
Tu t'en fous?
Oui.
Écoute, moi, je m'en fous pas. Mais je m'en fous pas toujours, les deux.
Ah, ben, ils se ressemblent.
Ouais, grosse ressemblance physique.
Oui, bien sûr.
Donc, je m'en fous pas du tout pour plusieurs raisons. Je vois que la France est un pays qui est marqué par la tradition révolutionnaire. Parce que, par exemple, là, donc, c'est une candidate trotskiste. Jean-Luc Mélenchon lui-même est issu du trotskisme. Et en 2002 ou 2007.
Charme de la France.
En 2002 ou 2007, il y avait 3 candidats trotskistes. Arlette Laguillé pour lutte ouvrière, un pour le NPA, c'était Besancenot, et un Gluckstein puis Chivardi pour le Parti des Travailleurs. Donc un pays, 3 candidatures trotskistes. Deuxièmement, bah oui, tu l'as dit, c'est sa 4e candidature depuis 2012, et avant, il y avait eu les 6 candidatures d'Arlette Laguillé depuis 1981, ce qui fait 10 candidatures non-stop pour lutte ouvrière, ce qui est quand même impressionnant. Et d'ailleurs, honnêtement, et je pense que c'est voulu, c'est volontaire, Nathalie Arthaud est la photocopie d'Arlette Laguillé. Physiquement, dans la manière, les cheveux courts, la manière de s'habiller, c'est fait exprès. Hein. C'est dans la travailleur, travailleuse, les termes employés pour montrer justement que le parti ne change pas. Et enfin, c'est une organisation que j'ai un peu étudiée, ils sont très bien organisés parce que eux, c'est leur stratégie. Leur stratégie, c'est pas de gagner les élections, mais c'est de se faire connaître. Donc ils font la sortie ils font la sortie des lycées pour faire du recrutement. Ils ont leur fête de lutte ouvrière chaque année. Après, c'est le week-end de la Pentecôte. Ils ont la candidature à toutes les élections.
Comment expliquer cette complaisance à l'égard de Trotsky?
Ils
ont le droit. Et c'est un personnage historique très intéressant.
Trotsky, t'as surtout.
Et ils arrivent à chaque fois à avoir leur 500 signatures. Ils arrivent à avoir leurs 500 signatures, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et ce qui montre qu'ils sont bien organisés.
On peut dire aussi qu'Hitler était un personnage historique intéressant. Enfin, se faire référence à Trotsky, qui est l'homme qui a inventé le premier camp de concentration. Si on fait un peu d'histoire, le camp de concentration soviétique a été inventé par Léon Trotsky pour enfermer déjà des gens qui pensaient
pas comme eux. Camp de concentration a été inventé par les Anglais en Afrique du Sud pour interner les bourgs. C'est 20 ans avant.
Non, c'était, je parle soviétique. Le premier camp de concentration soviétique, c'est Léon Trotsky. Donc c'est étonnant de faire toujours référence à un type qui aujourd'hui, on le sait, était peu recommandable. Et voilà,
mais c'est le charme de la France. Alors attends, il n'a pas fait plus de morts que les présidents américains qui ont génocidé les des Indiens d'Amérique.
Revenons.
Tu peux faire génocide des Indiens d'Amérique.
Tu défends tout ce qui va.
Mais il y a personne qui se réclame de président américain de l'époque ici.
Oui, mais tous les présidents américains se réclament des présidents de l'époque.
Non, mais bien sûr, on peut comparer effectivement Lincoln avec Trotsky si tu veux.
Florian Gavalli.
Ça m'embête pas du tout.
Négationniste du génocide amérindien.
Ça m'embête pas du tout que quelqu'un fasse une candidature pour faire 1%. C'est ça la démocratie et c'est super. En revanche, ça m'embête que Nathalie Arthaud, qui a fait une déclaration ce week-end, se dise « Je ne suis pas de gauche, je suis communiste, révolutionnaire, internationaliste. » Elle se revendique d'un courant qui était totalitaire. Et je ne comprends pas. C'est comme si Éric Zemmour disait « Je ne suis pas de droite, je suis néo-nazi. » il dirait pas ça. Et je ne comprends pas que la gauche soit... parce que en fait, à gauche, ces gens-là, on vote pas pour eux, mais ils sont encore séduisants, on les aime bien, on les invite aux fêtes de l'UMA, on les invite au festival.
Quand je pense qu'Alain Souchon a fait une chanson sur Arlette Laguille.
Et je ne comprends pas que la gauche ne soit pas capable de faire son autocritique sur ce qui était du totalitarisme, et je crois que c'est le même sujet qu'avec Jean-Luc Mélenchon. C'est ça qui divise la gauche aujourd'hui, c'est qu'il y a une gauche démocrate et il y a une gauche borderline, et moi cette gauche borderline, qui n'est d'ailleurs pas de gauche, elle le dit, vraiment je comprends pas qu'en 2026 on en soit encore là.
C'est marrant, t'as parlé d'autocritique qui est un terme maoïste justement, je trouve ça assez cocasse.
Il valait mieux faire son autocritique avant d'être
déporté
en camp de... ou
non, mais en fait vous êtes des tièdes qui avaient peur de la violence, c'est pour ça que vous avez peur devant Trotsky et tout, vous avez peur devant le frisson de l'histoire.
Ouais, je suis
la trouille de se faire déporter, on peut l'avoir
enterré par Jean-Loup Bonamy ce matin. Bon,
il a réhabilité Trotsky,
a mal terminé quand même, hein,
Trotsky violet dans la tête par Ramon Mercader.
La révolution mange toujours ses enfants.
Allez, dans un instant on va attaquer la Louis.
Merci.
Dans un instant, on va attaquer la deuxième heure des GG des Grandes Gueules. Au programme de la deuxième heure des GG, vous avez vu deux victoires de clubs ce week-end. Lens au Stade de France en Coupe de France.
Contre
et Bordeaux en Coupe d'Europe 2.
Rugby en Champions Cup, le back-to-back.
Et ça s'est bien passé.
C'est possible.
Pas de violence avec Bordeaux, pas de violence avec Lens. Comment ça se fait qu'on a eu deux victoires sans débordement? 32-16 pour en parler avec les GG. Mais d'abord, Gérald Darmanin, le ministre candidat lui aussi à l'élection présidentielle, qui aimerait bien arrêter l'immigration pendant 3 ans. Un moratoire sur l'immigration. Est-ce possible? Comment faire? 32-16, là aussi, pour en discuter avec les GG. Il est 10h-5.
RMC, 9h midi. Les Grandes Gueules.